Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Ô Jésus, que ton esprit plane sur cet auditoire. Que l'esprit de vie prenne toute la place de nos pensées dans notre cœur. Qu'il prenne toute la place. Parle. Ton serviteur écoute. Merci Jésus. Amen. Nous lirons dans l'évangile de Luc au chapitre 14, à partir de verset 25. Depuis plusieurs dimanches déjà, nous tirons notre enseignement dans les paroles de Jésus, dans ce qu'il a dit, dans ses sermons, dans ses prédications. Nous n'allons pas tout prendre, bien sûr, mais du moins quelques-unes de ses paraboles, quelques-uns de ses enseignements, desquels nous tirons un enseignement pour nous dans notre vie chrétienne, dans notre marche. Nous avons besoin de savoir ce que le meilleur théologien, le plus grand prédicateur, le plus grand sage de l'univers préconise pour ceux qui le suivent. Et son langage n'est pas compliqué, il est très simple. Très simple, mais direct, et certaines fois choquant. Oui, certaines fois choquant, car il veut choquer aussi pour réveiller notre attention, pour nous faire voir l'importance de ce qu'il dit, pour nous faire comprendre que sa parole, que ce qu'il dit, que ce qui sort de sa bouche, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Bien souvent, son langage envers ses auditeurs était des plus directs, et même les bien-pensants de notre âge pensent que c'était trop dur, trop direct, trop tranchant. Non, non, nous ne pouvons pas le dire. D'abord, c'est lui qui parle et lui a toute autorité. Secondement, il veut nous amener à une réflexion, à un examen de nous-mêmes. Et il veut nous choquer de telle façon que nous soyons amenés à une réflexion profonde et à une action. Nous sommes tellement distraits, dans notre vie de tous les jours. Nous suivons le train-train du monde, des affaires de ce monde. Nous écoutons la parole de Dieu dimanche après dimanche. Et ensuite, nous plongeons dans nos affaires, dans nos préoccupations. On tourne le bouton de la télévision, on voit toutes sortes de choses. On tourne la radio. On voit les copains, les amis. Et trop rapidement, la semence jetée dans notre cœur est oubliée, est laissée. Elle n'a plus cet impact, elle n'a plus cette force sur nous, sur notre esprit, sur notre âme. L'instant où nous l'avons écoutée était un instant crucial, où notre conscience a été touchée, et nous nous disons, oui, c'est vrai, oui, je veux marcher, oui, oui, oui. À peine sorti, paf, c'est parti. Le Seigneur est conscient de notre nature et c'est pour cela qu'il répète et qu'il répète encore et encore. Si je puis dire cela, c'est parce que je me connais moi-même. Croyez-moi, je ne dis pas des choses que je ne connais pas, c'est-à-dire qui ne viennent pas d'une expérience personnelle. Combien de fois j'étais affligé avec moi-même? Combien de fois j'étais affligé avec cette nature dans laquelle je suis? J'ai pleuré devant Dieu. Les années passent. La patience de Dieu fait ce que nous sommes aujourd'hui. La patience de Dieu envers moi a fait ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis est loin d'être parfait, cela s'entend. Mais quand même, il y a une perception plus profonde encore. Lorsque j'avais 20 ans ou maintenant, une perception aujourd'hui différente, une compréhension plus profonde et plus vraie. Frères et sœurs, ça doit être la même chose pour chacun d'entre nous. Nous ne pouvons, nous ne devons rester au point où nous sommes aujourd'hui. Et nous devons tous être ambitieux pour grandir, pour croître, pour être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Ne soyez pas satisfaits. Je ne peux être satisfait moi-même au point où je suis arrivé. Il faut grandir, il faut croître. Il faut parvenir à l'image de Jésus-Christ. Ceci doit être notre ambition, car il nous a appelés à être ses disciples. Mais pour être ses disciples, justement, c'est cela dont on veut parler aujourd'hui. Il y a un prix à payer. Pour être ses disciples, il y a quelque chose à faire. Il y a une obéissance, il y a une marche à suivre, il y a des considérations. Et là, il nous en parle ici, dans ce passage. C'est lui-même qu'il parle. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Ah, j'aime bien quand il parle. Jésus, quel enseignement !» Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moqueront et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Quel langage! Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Nous avons tellement l'habitude de dire, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Je dois faire ce que je veux avec. Moi, j'ai souffert pour cela. J'ai gagné mon argent. J'ai souffert. C'est à moi, je suis arrivé à mettre de côté pour ceci, pour cela, une maison, un compte en banque, que sais-je, une entreprise, que sais-je encore, ça doit me rapporter. Je veux. Tant que tu as cette attitude, tu resteras malheureux et pauvre. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu n'as pas demandé de venir au monde, as-tu demandé? Tu es là. Ensuite, si tu vis, c'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te donne le temps. Celui qui est le maître de toutes choses. Celui qui te donne la santé, la force, l'intelligence, la sagesse. Et tu travailles. Oui, tu travailles parce qu'il a voulu que tu travailles. Parce que c'est normal. Tout homme doit avoir une activité. Doit travailler. Nous sommes interdépendants. Nous l'avons déjà entendu ces quelques dimanches passés. Interdépendants, chacun amène quelque chose qui sera bénéfique à l'autre. Donc, tout ce que je fais, c'est pas pour moi, c'est aussi pour le bénéfice de l'autre. Il y a interdépendance. Je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour l'autre. Et si j'ai trouvé le Seigneur, je vis pour le Seigneur. Et je dois le glorifier dans ma vie de tous les jours. Je ne suis qu'un passager sur cette terre. Je n'y ai rien à porter et je n'emporterai rien de cette terre. Nu, je suis venu, nu, je repartirai. Quelle qu'ait été ma richesse, quels qu'aient été mes biens, quel ait été mon succès ou ma faillite, nu je suis venu, nu je repartirai. On a beau m'entourer d'un merveilleux cercueil ciré, capitonné. On a beau me mettre les plus beaux habits, les plus beaux draps et tout. On a beau, je suis nu. Poussière, tu retourneras à la poussière. Mais ton âme à Dieu qui t'a créé. Nous ne sommes que des passagers. Nous n'avons rien à porter et nous n'emporterons rien. Arrête de dire, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. J'ai amassé, c'est pour moi. C'est moi qui gère, c'est moi qui fais, c'est moi. Laisse-le moi de côté. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Renoncez à tout ce qu'il possède. À tout ce qu'il possède. Un langage fort, tranchant. Celui qui renonce à tout ce qu'il possède ne va pas dire « c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi ». Seigneur, merci pour la grâce que tu me donnes de pouvoir travailler aujourd'hui. Je n'ai pas fait beaucoup d'argent, c'est vrai, mais peu importe. C'est ce que tu m'as permis de faire et je te loue pour cela. Je suis riche parce que je te connais. Attitude différente. Si nous avions une meilleure attitude, frères et sœurs, nous aurions beaucoup plus de succès dans nos entreprises et dans notre travail. Nous ne sommes que des gérants de notre temps, des gérants de notre intelligence que Dieu nous a donnée, du temps qu'il nous a donné, des gérants de ce que nous gagnons, car ce que nous gagnons n'est pas à nous. Seigneur, aide-moi à utiliser ce que tu m'as donné le mieux possible pour ta gloire. Ce que tu m'as donné, c'est à toi, Seigneur. Une partie, c'est pour ma vie de tous les jours, oui. Tu as dit toi-même, l'ouvrier est digne de son salaire, je suis un ouvrier, donc ce que je gagne, il y a une partie pour mon salaire, c'est vrai. Mais donne-moi de le gérer comme il faut et ne pas agir stupidement pour enrichir des féticheurs, des voleurs, des menteurs, mais que cet argent que je gagne puisse enrichir ceux qui en ont véritablement besoin pour la proclamation de l'Évangile. Oh, combien je souhaite que tous les hommes d'affaires qui sont ici dans cette église, que tous les gens qui travaillent et qui gagnent leur argent en gagnent beaucoup. Je le souhaite, mais qu'ils donnent leur part à Dieu, afin que nous puissions accomplir ce que nous devons accomplir. Il y a des gens qui pensent plaisanter avec l'Évangile. Ils veulent s'enrichir, alors ils disent, apportez-moi quelque chose, n'importe quoi, et vous allez voir ce que vous allez recevoir en retour. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent cela, n'est-ce pas? Beaucoup. Eh bien, si vous donnez avec le désir de recevoir, vous n'aurez rien du tout. Voilà ce que je vous dis. Et ne croyez pas ces mensonges. Si vous donnez avec la motivation que maintenant vous allez recevoir 2 fois plus, 3 fois plus, 100 fois plus, et que ceci est la motivation de vos cœurs, sachez que rien ne vous sera donné, vous allez vous appauvrir de plus en plus et vous serez ridicule. Quel est le principe de Dieu? Dieu veut que nous donnions avec la bonne et juste motivation. Seigneur, ce que j'ai, ce n'est pas à moi. Et je veux t'en retourner la dîme, premièrement, ensuite les offrandes. Seigneur, ce que je retourne, dans le fond, ce n'est pas à moi, c'est à toi. Et je le fais, Seigneur, parce que j'aime le faire, je veux le faire. Je veux voir l'Évangile progresser, je veux voir les âmes sauvées, je veux voir mon Église pouvoir réaliser ses projets, je veux voir ta gloire, Seigneur, et je t'aime, Seigneur. Je prêche pas, c'est vrai. La plupart de mon temps, je suis là en train de travailler, c'est vrai. Je n'ai pas le temps d'aller ici et là, c'est vrai, mais je peux faire quelque chose. Et voilà, Seigneur, une partie de ce que tu m'as donné, je te le retourne, parce que je t'aime, et c'est la partie de mon ministère. Croyez-vous que cet homme va manquer quelque chose? Oh non, oh non, oh non. Mais la motivation de son cœur, ce n'est pas qu'il donne pour recevoir, non, mais il donne parce qu'il aime. Il donne parce qu'il veut servir. Il donne parce que, à cause de la gloire de Dieu, peut-être qu'il a donné aujourd'hui que demain il va se trouver sans rien sur la table. Seigneur, ça fait rien, ça fait rien. Je vais jeûner aujourd'hui, mais je sais que demain tu me donneras. Oh, mes amis, Dieu nous met à l'épreuve. Ne flanchons pas dans l'épreuve. Frères et sœurs, vous êtes ici, vous écoutez la parole de Dieu, profitez de l'enseignement qu'il vous est donné, afin de grandir et de ne pas rester des bébés gâtés. Nous avons vu que la neutralité ne peut exister en matière spirituelle. Dimanche dernier, vous vous souvenez? Nous devons être ou pour Dieu ou contre Dieu, l'un et l'autre. Pas de position intermédiaire, pas de non-engagement. Avec Dieu, il n'y a que des engagés, soit engagés pour lui, soit engagés pour Satan. Soit pour le bien, soit pour le mal. Il n'y a que des engagés. Mieux vaut savoir où nous sommes. Mieux vaut connaître le Maître qui est au-dessus de nous. Qu'est-ce qui est au-dessus de nous? Qu'est-ce qui nous motive dans tout ce que nous faisons? Si je travaille, quelle est ma motivation? La gloire de Dieu? Prospérer pour soutenir son œuvre?
ou bien m'enrichir, je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche. Ces gens-là deviennent des névrosés, mais ces gens-là, ils s'appauvriront au lieu de s'enrichir. À plus forte raison si on connaît Dieu. Les gens du monde, Dieu les laisse faire ce qu'ils veulent, peu importe. Mais il est exigeant pour ceux qui l'ont choisi. Si nous obéissons aux règles, nous aurons les bénéfices. Et les bénéfices que Dieu donne, c'est bien plus encore que la prospérité matérielle. La neutralité nous met en danger. Elle crée un vide qui doit être, qui veut être rempli. Esclaves ou libres que sommes-nous? Il n'y a que deux conditions, pas d'intermédiaire. Être libre, c'est être esclave de Jésus-Christ. Dans Romains 6, 16, il est dit, « Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. » Voilà. Esclave de celui à qui vous obéissez. Aïe, 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 toutes sortes de pensées me viennent à l'esprit. Et des fois, je me demande si je dois le dire. Esclave de celui à qui vous obéissez. Esclave de celui duquel vous recevez de l'argent. Enfin, passons. Dans 2 Corinthiens 7, 22, il est dit là, l'homme libre est un esclave de Jésus-Christ. Ah! Être esclave de Jésus-Christ, c'est d'être véritablement libre. L'homme doit avoir et suivre un maître qui exige de lui fidélité et obéissance. Ceci dans le contexte du message de dimanche dernier. Les exigences de Christ sont choquantes. Les exigences de Christ sont dures et tranchantes, radicales. Écoutez plutôt. Nous l'avons lu. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas, hait, haïr, c'est plus que de ne pas aimer, haïr. Si quelqu'un viens à moi et ne hais pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même haïr sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous nous souvenons que quand Jésus, une fois lorsqu'il parlait, lorsqu'il était ici-bas, il a fait cette déclaration, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et que dit la loi? Dans Deutéronome 13, 6, il est dit là, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux. Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Ah. Jésus n'est pas en contradiction avec la loi. Un autre Dieu. Ah. C'est grave, un autre Dieu. Oui, nous vivons au temps de la grâce maintenant. Au temps de la grâce, et chaque fois que nous adorons d'autres dieux, il n'y a pas des pierres qui nous tombent dessus pour nous lapider. C'est vrai. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est pour cela que Dieu, dans sa patience, parle et parle encore. Mais un jour, la grâce sera retirée. Et ceux qui ont méprisé la grâce, alors, ils seront jetés dans les tourments éternels. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des faux dieux. Ils ont placé entre le Dieu vivant et eux-mêmes toutes sortes d'autres choses. L'argent, les plaisirs de la chair, les plaisirs du monde, l'orgueil, la vantardise, et que sais-je encore? Idole. Mais ces exigences de Christ, ces exigences de l'Ancien Testament, n'est-ce pas impossible? N'est-ce pas trop exigé? N'est-ce pas trop intransigeant? Quel maître exige cela de ses disciples? Quel maître peut s'attendre à avoir des disciples pour le suivre dans de telles conditions? Quel disciple peut accepter de se lier par un tel vœu? Il est évident
que la vue des grandes multitudes qui suivaient Jésus durant le temps de sa popularité ont motivé ce langage coupant et radical. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Dans Matthieu 16, 25, il est dit, quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, vous voyez, à cause de moi, la retrouvera. Des millions prétendent suivre Jésus. Des millions à travers notre pays prétendent suivre Jésus. Mais Jésus leur dit, sachez qu'il y a un prix pour être mon disciple. Un prix à payer pour me suivre. Je vous accepte tel que vous êtes, mais vous devez accepter une transformation. Tel que je suis, je viens à toi. Nous avons un cantique qui dit cela. Et le Seigneur nous dit, oui, tel que tu es, je t'accepte et je te sauve. Mais maintenant que tu es sauvé, accepte d'être transformé. Voilà où le problème commence. Nous voulons rester avec nos mauvaises habitudes. Nous voulons rester avec nos mensonges, nos choses malhonnêtes, notre impudicité, nos égarements, et tout en même temps profiter de ce que Dieu nous a donné par le salut acquis par son sang. Nous voulons, disons, les bénéfices de tous les côtés. Bénéfices. Y a-t-il un bénéfice du côté de Satan? Non, il n'y a que perte. À court temps, il y a une joie charnelle, il y a un plaisir charnel. Mais croyez-moi, empoisonné, et le jour viendra où tu le payeras si tu ne changes pas. Il y a un prix à payer. Il nous sauve, il nous change, il nous purifie et il nous transforme. Mais cette transformation, beaucoup ne veulent pas l'accepter. Lorsque Jésus a dit ces paroles choquantes, sa renommée s'étendait, sa popularité grandissait, son message bouleversait les foules. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, dirent-ils. Même ses ennemis s'étonnaient de son enseignement. Quelle école a-t-il suivi? D'où vient-il? Au pied de quel maître a-t-il étudié? D'où lui vient cette autorité? Ses œuvres sont étonnantes, des miracles, des prodiges. Il commande et les choses se passent. Il parle au vent et il se tait. Il chasse les démons et il fuit. La curiosité attire les foules. On s'assemble en grand nombre. On le suit. Il y a beaucoup d'opportunistes dans cette foule, comme aujourd'hui du reste. Beaucoup d'opportunistes. Beaucoup de profiteurs. Il y a peut-être quelque chose à gagner, pense-t-il. Jusqu'à aujourd'hui, combien d'hommes et de femmes cherchent à gagner quelque chose de tout matériel par l'Évangile? Combien? Combien aujourd'hui cherchent à gagner, si c'est possible, des voix, même dans les votes? Des voix. Alors, on se mélange à tout le monde. On fait chrétien. On a le langage de Canaan, mais quant à la vie, on est toujours dans la magouille, on est toujours dans le mensonge, on est dans l'infidélité, on ne respecte même pas sa propre femme à la maison, on en a d'autres ici et là, et puis on s'affiche avec les chrétiens. Pourquoi? Ah mais moi je suis chrétien, du reste on se promène avec la Bible, même là au Parlement on a la Bible à côté de soi. Pourquoi pas? Mais cette Bible te condamnera si tu n'y obéis pas. Cette Bible te condamnera si tu n'appliques pas à ta vie son message. Mais comme du temps de Jésus, il y avait ces profiteurs qui cherchent à gagner quelque chose en suivant Jésus. Vous savez, ces prédicateurs qui cherchent à se remplir des poches par l'Évangile, en promettant, si vous donnez, vous recevrez le sang en plus. Ah, le sang... 100 fois plus. Mais à qui vous devez donner? À moi.
donnez à moi.
Oh, ce Jésus, il a un tel pouvoir.
Ce Jésus a une telle popularité. Il a une telle puissance et une telle autorité. N'est-ce pas l'homme qu'il nous faut dans notre parti des zélotes? Il y avait le parti des zélotes, ce parti clandestin, interdit par le dominateur romain, mais qui était très actif par derrière dans la clandestinité. Et ils avaient des hommes partout, et ils l'entendent ce Jésus. Oh, il manipule les foules, quelle autorité, quel miracle, quelle puissance! Si seulement nous pouvons l'avoir dans notre parti des zélotes, essayons de le persuader à se joindre à nous. Il pourrait être notre chef. Il pourrait être le fer de lance de notre révolution. Si vous n'obéissez pas. Que veut dire suivre? Il n'a pas de royaume terrestre, celui qui parle. Qui est-il? Il n'a même pas de place où reposer sa terre. Ce prédicateur qui fait de grands miracles et qui bouge les foules. Qui est-il? Son message contre le péché, son message contre l'hypocrisie, son message contre le formalisme et la corruption, son message dis-je, et ses dénonciations publiques contre l'hypocrisie qu'il voit dans le monde religieux ne va pas lui ouvrir les portes pour qu'on lui donne une charge dans la hiérarchie religieuse. Oh non! Jésus ne fait pas de politique pour lui-même afin qu'on l'acclame et qu'on le vote. Non, il cherche à sauver les perdus. Qui est-il donc? Est-il un roi? Mais un roi? Un roi, un trône? Un roi, une armée? Un roi de l'autorité, du pouvoir, il a des serviteurs, on lui manifeste de l'honneur. Qui est-il? Non, il n'est pas un roi, alors, un paria, un imposteur, on l'a accusé d'apostasie, on l'a accusé d'être un imposteur. Qui est-il? Un crucifié, c'est ce qu'il deviendra. Un maudit. Car il est dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Tous connaissent cette parole, tous. Ils sont instruits quant à la parole de Dieu. Et pourtant, il leur parle de croix. Cet homme qui attire les foules parle à ces foules de croix. Croix? La croix, c'est quoi? C'est un supplice épouvantable, inventé par les dominateurs romains. Un brigand, un voleur, un meurtrier, il était cloué sur une croix par les mains et par les pieds, pendu là jusqu'à ce que mort s'en suive. 2 jours, 3 jours, dans une agonie épouvantable. Quelle honte, quelle malédiction, il n'y a rien de pire que cela. Maintenant, cet homme parle de croix et il dit, que nous devons prendre notre croix. Cela nous parle d'un acte volontaire. J'aimerais ici souligner une vérité, frères et sœurs. Et cette vérité, c'est que Jésus a été pendu au bois par sa propre volonté. Personne ne pouvait l'obliger. Personne, même l'autorité romaine. Une prière aurait suffi de sa part, pour que son père lui envoie une légion d'anges pour être délivré des mains de ses persécuteurs. Un commandement, il avait autorité, mais il a voulu être pleinement homme. Et c'est un homme qu'il est mort et qu'il s'est donné. Personne ne lui a pris la vie, c'est lui-même qui a donné sa vie. La croix, prendre sa croix, c'est un acte volontaire. C'est une peine acceptée, c'est une souffrance endurée qu'on pourrait éviter. Beaucoup de gens parlent et disent, quand ils sont malades, quand ils ont des problèmes insurmontables, les autres disent, oh, il porte sa croix. C'est un mensonge, c'est un gros mensonge. Pourquoi? Parce que s'ils pouvaient se débarrasser
de cette maladie ou de ce problème, ils le feraient. Ils n'ont pas pris volontairement. Quand Jésus parle de porter sa croix, c'est un acte volontaire. Je sais que ce chemin n'est pas facile, mais je l'accepte pour le Seigneur et pour sa gloire. Il se tourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, il ne peut être mon disciple. Et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Parole choquante. Oui, il a voulu choquer. Dans Matthieu 10, 37, il a eu un même langage, mais moins choquant. Il dit là, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Tandis que ce jour-là, voyant ces foules nombreuses qui le suivaient avec toutes sortes de motivations contradictoires, il a choqué, il a frappé fort pour faire réfléchir. Car en réalité, il nous a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal. Voilà ce qu'il a dit. Et quand il dit que nous devons haïr notre père, notre mère, ceci veut dire les aimer plus que moi. Vous ne devez pas les aimer plus que moi, mais vous me devez m'aimer d'abord. Qu'a-t-il dit encore? Recherchez le royaume des cieux et sa justice. Ah! Et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus. Deux. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a des priorités. Et ces priorités, c'est Dieu d'abord. D'abord le royaume des cieux. D'abord sa volonté. D'abord ce qu'il veut. D'abord se soumettre. Si vous faites cela, alors il dit, tout ce dont vous avez besoin de travail, vous avez besoin d'argent pour votre vie de tous les jours, vous avez besoin d'une maison, vous avez besoin de vous marier, d'une femme, d'un mari, vous avez besoin de beaucoup de choses, et ça je le sais, mais ne recherchez pas cela. Recherchez d'abord le royaume des cieux, et tout ce dont vous avez besoin, tout ce que je viens de mentionner est au-delà. Dieu dit, c'est moi qui vous le donnerai, et quand Dieu donne, il donne toujours le meilleur. Mais si nous n'avons pas le meilleur, c'est parce que nous n'avons pas placé les priorités là où elles doivent être. Oui, en priorité, oui, d'abord. Jésus est un réaliste. Il ne veut pas cacher que sur ce chemin que nous sommes appelés à suivre, en le suivant, il y a des pierres coupantes, il y a des obstacles, il y a des pièges. Il ne voile pas à ses disciples que sur cette route-là, il y a des croix à porter. Il ne veut pas camoufler le prix que le disciple doit payer pour le suivre. Il ne veut pas que nous sous-estimions les difficultés du chemin. Il veut que nous fassions face à la réalité, que nous sachions à quoi nous nous engageons. Voilà. Il veut que nous calculions le prix. Il nous appelle à une bataille. Et cette bataille est de taille. Comme nous dit Éphésiens 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Souvenons-nous de cela. Ce n'est pas contre un homme que nous nous battons. Même si cet homme nous persécute et dit du mal de nous, nous devons l'aimer. C'est pour ça que Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Ce n'est pas contre un homme que nous nous battons, mais nous sommes contre ces puissances mauvaises derrière l'homme. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les esprits méchants qui sont dans les ténèbres. Voilà ce qu'il nous est dit. Il veut que nous prenions au sérieux cet engagement et qu'il y ait de notre part une entière consécration à sa cause. Pas une demi-mesure, mais un engagement. Nous devons nous livrer à lui. Et une obéissance totale au chef, motivée,
Cette obéissance doit être motivée par un immense amour. Nous l'aimons, lui en premier, lui avant tout. Nous ne voulons pas lui déplaire. Ce qui veut dire, est que chaque homme ne doit s'engager dans son aventure sans compter le prix. Oui, c'est un genre d'aventure, c'est vrai. Et cette aventure, c'est pour les courageux, c'est pour les hommes forts. Alors il dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne calcule le prix d'abord, ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Le prix à payer, c'est de mettre toute priorité pour les choses du royaume des cieux. Priorité dans notre amour pour lui, priorité dans notre travail pour lui, priorité dans notre attention pour lui. Tout ce que je le fais pour lui, pour sa gloire. Je suis secrétaire dans le bureau, eh bien, je le fais pour sa gloire, comme si c'était pour lui et je travaille le mieux possible. Si je suis comptable quelque part, je le fais comme pour lui. Pour sa gloire, je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour lui. Si je coupe les cheveux, eh bien, je le fais pour lui et pour sa gloire. Et sa gloire doit être manifestée dans mes actions, pour lui. Si je suis mécanicien, eh bien, je le fais pour lui. Et je cherche toujours à faire l'excellence, parce que je le fais pour lui, et il est digne du meilleur. Le prix à payer, c'est de mettre toute priorité en amour pour lui, dans le travail pour lui, dans toute l'attention et dans la consécration pour lui, dans l'engagement pour lui, et lui d'abord. Accepter sa croix, accepter de la porter, accepter de le suivre, ce n'est pas un choix imposé, mais délibérément pris et accepté pour sa cause. Parce que nous l'aimons. Ce prix doit être calculé. Ce n'est pas que nous ayons à payer quoi que ce soit pour notre salut. Ne confondons pas cette chose. Dans Éphésiens 2:8, il est dit, nous sommes sauvés par grâce et par la foi, et c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mon salut est un don gratuit. Je suis sauvé par grâce et par la foi. Ni l'argent, ni les œuvres ne peuvent me sauver. Ce n'est que par la foi que je suis sauvé. Je crois et par grâce. Mais maintenant que je suis sauvé, alors, je dois accepter d'être transformé par lui. Il a payé le prix de mon salut. Seul lui pouvait le sauver. Mais une fois sauvé, il nous faut le suivre. Et pour cela, il faut renoncer à nous-mêmes. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le matérialisme est en train de nous détruire. Le matérialisme, la possession des biens, la possession de l'argent est en train de nous détruire. Nous ne sommes pas riches, mais l'argent nous détruit. Nous sommes riches, mais l'argent nous détruit. Ce n'est pas la quantité d'argent qui fait que nous soyons plus spirituels ou pas. Non, le pauvre n'est pas plus spirituel que le riche. Le matérialisme nous détruit. Tout ce que nous possédons, peu ou beaucoup, appartient à Dieu. Et nous devons le consacrer à Dieu. Alors Dieu le bénira, parce que Dieu veut que nous prospérions pour soutenir son œuvre, pour que son œuvre aille de l'avant. Nous sommes responsables, pas rien que moi qui prêche ici, mais chacun de nous personnellement, nous sommes responsables des âmes qui meurent autour de nous. Sommes-nous des témoins de Christ dans notre bureau, dans notre atelier, dans notre salon, où que nous soyons, sommes-nous des témoins de Christ dans notre attitude, dans notre façon de parler, dans notre comportement. Peuvent-ils, les gens qui nous voient, dire, ces gens sont différents, ils ont un langage différent, un langage de respect, un langage d'amour. Oui, ce sont des gens avec lesquels il fait bon travailler, parce qu'ils sont honnêtes. Et c'est ainsi que nous rendons témoignage et que nous sommes le sel de la terre. La cupidité, malheureusement, nous étouffe. À tous les niveaux, si bien le pauvre que le riche, la cupidité nous étouffe. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de victoire et qu'il n'y a pas de prospérité. Lui obéir, faire sa volonté, aller où il veut, être son esclave, ça, c'est être libre. Car quand on le sert. En vérité, sachez qu'il y a compensation. Vous comprenez cela? Il y a compensation. Tu me donnes ceci, moi je te donne cela. Voilà la compensation. Et ce qu'on gagne est combien plus grand que ce que nous avons à laisser. Calculez! Qu'est-ce que vous avez à laisser? Vous avez à laisser votre ivrognerie. Vous avez à laisser votre débauche. Vous avez à laisser votre mauvais langage et votre violence. Vous avez à laisser vos passions qui ne glorifient pas Dieu. Vous avez à laisser, peut-être, ce tabac qui vous lie et duquel vous n'arrivez pas à vous débarrasser et qui détruit votre corps. Vous avez à laisser ce mauvais langage et ces insultes qui sortent trop facilement de votre bouche. Voilà ce que vous avez à laisser. Il vous dit, laissez ça. Calculez. Qu'est-ce qu'il vous donne en retour? En retour, il vous donne la santé, la guérison, l'exaucement aux prières, la vie éternelle, le pardon, la joie, la satisfaction, le bonheur, une vision qui voit loin et qui voit déjà la gloire à venir. Voilà ce qu'il vous donne. Il y a compensation. Et croyez-moi, vous gagnez plus que vous ne perdez. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une maison, une tour, ne s'assied d'abord et ne calcule le prix pour voir et savoir s'il ne peut achever. Si vous commencez à bâtir sous le coup d'une émotion, d'une impulsion, d'un enthousiasme, d'un certain fanatisme, d'une fantaisie, d'un caprice, vous n'achèverez jamais, jamais. Si vous commencez à construire votre tour, votre vie, simplement pour essayer de plaire à Dieu pour qu'il vous retourne au centuple la petite mise que vous avez donnée, vous n'achèverez jamais, jamais, jamais. Puis-je construire selon le plan donné dans le sermon sur la montagne où il a posé les bases de la vie chrétienne? Puis-je vivre à un tel niveau, à un niveau plus élevé que la loi de la vengeance et des représailles? Puis-je m'élever à son niveau? Puis-je aimer mes ennemis? Calculez le prix. Puis-je prier pour mes ennemis? Vous allez dire, non, ça je peux pas. Pardonner, non, ça je peux pas. D'accord, tu le fais pas. Dis-le-lui, il te rendra capable. Ça, c'est le prix du disciple. Il te rendra capable. Tu ne peux pardonner, eh bien, avec lui, tu pourras. Parce que c'est la condition du disciple. Puis-je faire du bien à mes ennemis? Puis-je leur donner à boire lorsqu'ils ont soif et les secourir dans leur détresse? Endurer à cause de Christ? Puis-je accepter le rejet et la moquerie de la famille, du monde qui m'entoure? Puis-je bâtir jusqu'à achever? Sinon, on dira, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Remarquez là l'ironie de cette phrase. Cet homme, là il y a une ironie, cet homme, il n'a même pas pu achever, il a commencé. Combien de maisons inachevées aujourd'hui et qui sont restées vides parce qu'inachevées et dans lesquelles rôdent toutes sortes d'oiseaux impurs. Après avoir parlé de l'entreprise d'un édifice, Jésus parle de cet autre aspect de la vie chrétienne qui est la lutte, qui est le combat, qui est la guerre, qui est la bataille à mener. Nous devons édifier, nous devons bâtir, mais nous devons lutter aussi, accepter la lutte. Et là aussi, il y a un prix. Souvenez-vous de Néhémie. Néhémie, qui est arrivé à Jérusalem avec des hommes d'Israël pour rebâtir les murs de la ville en ruine. Plein d'ennemis partout, des gens qui se moquent d'eux, qui rient de leur entreprise, qui les menacent, et même qui viennent par bande armée pour faire opposition. Mais Dieu a choisi Néhémie pour rebâtir les murs de Jérusalem. Dieu aurait pu écraser les ennemis sans intervention de Néhémie et de ses hommes. Non, ce n'est pas comme cela. Tu dois combattre. Alors, tu dois bâtir. Alors, une partie des Israélites était là, le bouclier au bras et l'épée à la main avec le javelot, pendant que l'autre partie était en train de bâtir. Et chacun tenait la truelle avec l'épée au côté. Bâtir et lutter. Frères et sœurs, nous ne sommes pas encore dans la terre promise. Le disciple ne doit pas s'engager dans la lutte de la vie avec Dieu sans réflexion et sans calcul. Il y a trop de faux chrétiens, trop de faux christianisme qui veulent le paradis maintenant. Le paradis maintenant. Maintenant, tout l'argent que je veux. Maintenant, la maison. Maintenant, la voiture. Maintenant, ça, c'est pas le paradis. Est-ce que les riches sont plus heureux que vous? Regardez l'infidélité dans leur foyer. Regardez leurs femmes et leurs enfants qui pleurent parce que papa est loin avec une autre femme. Regardez les batailles et les rivalités, les fétiches qui se font entre les femmes rivales. Regardez cet homme atteint du sida. Malgré sa richesse, il est en train de mourir. Regardez, ça c'est pas le paradis. Nous ne sommes pas encore dans notre patrie. Il faut réfléchir à la destinée, à la disparité des forces. Oui, assieds-toi et calcule le prix. Peux-tu remporter avec seulement 10 000 hommes alors que l'autre vient avec 20 000 hommes? La disparité des forces. D'un côté, la petitesse, la faiblesse, la fragilité. De l'autre, une puissance colossale, démesurée, occulte, terrible, cruelle. Si je choisis Christ, il y aura combat. Puis-je vaincre? Puis-je vaincre? Non, seul, c'est pas possible. Moi, pauvre petite fourmi, contre les puissances des ténèbres, les puissances occultes, je ne puis vaincre. Alors, il faut que le Dieu puissant soit avec moi. Et je dois faire ce qu'il faut faire pour cela. Sa parole me le révèle. Il est à ma disposition. Un homme avec Dieu, c'est une majorité. Mais tu dois être sûr qu'il est avec toi. Alors, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, vous serez plus que vainqueur, comme dit l'apôtre. Il n'y a pas besoin d'être 10 000 hommes. Il n'y a pas besoin d'être 20 000 hommes. Un homme seul est une majorité. Calcule le prix. Quand tu l'as trouvé, alors fais ce que tu dois faire pour que le Dieu fort soit avec vous. L'armure complète de l'esprit, voilà ce qu'il nous donne. Ensuite, il nous dit encore, il met à notre disposition cette armure. Et il me garde. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il te guérit dans tes problèmes, dans tes difficultés. Il est à tes côtés. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et encore, il dit, l'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous. Restez tranquille. Il combattra pour vous. Tournez seulement autour de Jéricho. Il abattra les murailles pour vous. Lisez! Nous ne sommes pas encore dans le paradis, frères et sœurs. Ne vous installez pas comme si vous seriez là, dans le paradis, simplement parce que vous avez votre petite maison, votre petite voiture et tout cela. Ça, c'est pas le paradis. Je veux mieux que ça. Ce qui ressort de tout cela, c'est que Jésus doit être le premier et il doit être le seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà ce qu'il a dit. Il veut la première place. Cela veut dire être prêt à mourir pour lui. Il haïra même sa propre vie. C'est-à-dire qu'il aimera le Seigneur et voudra le servir même en mourant pour lui si c'est nécessaire. Ce qu'il demande est juste. L'amour légitime pour les parents ne doit jamais entrer en compétition avec l'amour total que nous lui devons. Total est prioritaire. Le terrestre, ce qui est de la terre, ne pourra avoir de la valeur que à travers et dans le céleste. Ce qui est terrestre ne peut demeurer par lui-même, mais ce qui est terrestre avec le céleste pourra demeurer. Le terrestre ne va pas dominer le céleste. Non. L'amour terrestre, l'amour que Dieu donne dans le cœur de l'homme pour sa femme, pour son mari, pour ses enfants, pour ses parents, a sa valeur. Il a sa valeur. Jésus ne l'a jamais méprisé, car il en est l'auteur. Mais il a sa valeur, cet amour, dans le céleste. Alors, cet amour grandit en rayonnement, grandit en profondeur, grandit en durabilité, grandit en joie. Christ a tout quitté pour nous. Christ a tout donné pour nous, par amour, pour nous sauver.